Bonjour à tous, j'ai reçu la semaine dernière Boris Tavernier dans le cadre du podcaston. Donc dans cet épisode, il nous avait présenté l'association VRAC France. Et en échangeant avec lui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller plus loin et de créer un deuxième épisode, qui est donc celui d'aujourd'hui, qui va être plus centré sur son parcours. L'idée, c'est de comprendre comment on part du Nord-Pas-de-Calais, dans un milieu plutôt modeste, pour arriver à Lyon, pour créer une première société coopérative, puis 10 ans plus tard, une association, qui est donc l'association VRAC. Alors pour vous remettre sur les rails, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, l'action de VRAC, c'est vraiment de défendre une alimentation de qualité, accessible pour le plus grand nombre, et notamment dans les quartiers populaires, où on n'a pas forcément accès à une alimentation durable, une alimentation de qualité. Et bien les actions de VRAC, c'est d'aller proposer dans ces quartiers cette alimentation de qualité, cette alimentation paysanne, cette alimentation durable. Donc je vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière pour en savoir plus sur VRAC, mais bien sûr dans l'épisode d'aujourd'hui on va reparler de VRAC puisqu'on va parler du parcours de Boris, et ça fait 10 ans qu'il est au cœur de l'action de VRAC, donc forcément on va reparler aujourd'hui également de l'association VRAC, mais avec un prisme un peu différent et même très différent de la semaine dernière, parce que là on est vraiment centré sur son parcours et notamment sur l'évolution de son rôle. Vous verrez que c'est intéressant parce qu'on a à la fois un côté vraiment entrepreneurial qui est très fort, c'est vraiment de la création de projet la carrière de Boris, pas entrepreneur au sens on va dégager un maximum de profit, c'est clairement pas ça. C'est vraiment entrepreneur social, c'est-à-dire au sens avoir un maximum d'impact par ses actions sur la société, un maximum d'impact positif. Puis à travers aussi son évolution de carrière dans le milieu associatif, on va voir qu'on peut passer par des rôles très différents, des rôles très orientés de terrain au début, c'est ce qu'il faisait il y a 10 ans, un rôle aujourd'hui beaucoup plus de développement, de représentation, parfois politique également. Il est parfois présent dans des ministères, dans des émissions de télévision, dans des débats à la radio, et puis également au micro de podcasteur. Et je l'en remercie d'ailleurs d'être venu au micro du podcast Nouvelle Voix. Et je vous souhaite une très bonne écoute de cette interview. Bonjour Boris.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, sachant qu'on s'est déjà vu il y a quelques temps, parce qu'on a sorti un épisode il y a une semaine sur l'association dont tu es le délégué général, je dis pas de bêtises sur le titre.
C'est ça. Le métier a changé plusieurs fois, mais aujourd'hui, je suis délégué général de VRAC France.
Aujourd'hui, c'est ce métier-là. Donc, l'association dont on va parler et dont tu es le délégué général, il y a un épisode qui est sorti la semaine dernière dans le cadre du podcaston, qui est un événement où chaque podcasteur propose un épisode mettant en lumière une association. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, d'en savoir plus sur VRAC. Bien sûr, on va en reparler pendant cette interview, mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'association, je vous invite à écouter l'épisode qui est sorti du coup la semaine dernière. Et là, l'objectif, c'est plutôt qu'on puisse parler de toi, de ton parcours. Est-ce que justement, au-delà de parler de VRAC et de ta position d'aujourd'hui, on peut parler de comment tu as démarré dans la vie professionnelle?
On va aller loin là, alors,
parce que
je commence à vieillir. Alors, on peut pas dire qu'en tout cas, ma vie scolaire fut une réussite.
Okay.
En tout cas, jusqu'au lycée.
Loin de ta souvenir.
Jusqu'au lycée, pas de problème. Et l'université a été plus compliquée. Moi, je viens d'un milieu très populaire. Mes parents étaient ouvriers. Donc déjà, t'as pas forcément le code des grandes écoles.
Ouais.
Ils ont eu le certificat d'études et ils ont commencé à bosser tous les deux dès 14 ans, voire même plus tôt pour mon père.
D'accord.
Donc je ne connaissais ni Sciences Po, ni les grandes écoles, ni les prépas, ni tout ça, ça n'existait pas. Donc déjà, avoir le bac, c'est déjà une belle victoire d'où je viens. J'ai tenté les études supérieures et je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc. Donc j'ai d'abord, évidemment, quand tu n'as que le bac, tu enchaînes un petit peu des petits boulots. Je viens du Pas-de-Calais, d'un petit village, c'est le village où oublié. C'est
D'accord.
ces petites villes
okay.
qui ont disparu, avec
la
désindustrialisation, où tu vivais bien dans les années 80, 90, et aujourd'hui, c'est assez intéressant, où tu retrouves le même taux de pauvreté que dans les banlieues.
Ah oui, d'accord.
On en
d'accord.
est à peu près là.
Okay.
Donc quand j'arrête la fac et que je me retrouve un peu au chômage et au retour à la case parents dans le Pas-de-Calais
d'accord.
avec aucune perspective d'avenir, hormis ouais. peut-être travailler dans l'usine d'emballage plastique, la seule qui restait, ou chez Herta
okay.
pour découper des carcasses de viande.
Oui, Herta, c'était, avec ce qu'on a dit dans l'épisode de la semaine dernière.
C'était assez, ça me motivait moyennement.
Ouais.
Je suis parti à Lyon en 2002, parce que j'avais deux amis à Lyon, et je me suis dit que dans une grande ville comme celle-ci, il y a peut-être plus de chances de trouver du travail. J'étais pas très difficile. Il fallait que je mange.
Tu voulais juste pas bosser chez Herta.
Il fallait que je mange. Bon, en même temps, je me suis retrouvé dans des endroits qui n'étaient pas forcément mieux. Parce que en France, c'est le pays des diplômes, des étiquettes aussi.
Ouais.
Donc,
ouais.
Quand tu n'as rien, tu n'es rien. Et,
ouais.
Et c'est assez violent. Donc, je fais plein de petits boulots aussi, beaucoup d'intérim. Et j'ai commencé vraiment à bosser dans un magasin de jouets à
d'accord.
Lyon, à la Part-Dieu.
Okay.
Donc c'est de la grande distribution, hein, clairement, ouais, hein, ouais. on en est là. Et ça a été vraiment une prise de conscience, en tout cas, de ce que je ne voulais pas faire dans ma vie professionnelle. Okay. J'y suis resté une année.
Juste pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas lyonnais, la Part-Dieu, c'est le très gros centre commercial.
Vous en êtes tous lyonnais. Dans vos villes ou pas loin.
Voilà, très très gros centre commercial, donc ouais, on imagine un peu l'ambiance.
Ouais, c'était... on est vraiment là-dessus. J'y suis resté un an avant de me faire licencier pour non-respect de la hiérarchie. C'est un peu mon petit trophée, je suis assez fier de
D'accord.
ça. Okay. On avait mené une grève dans ce magasin de jouets. Il n'y avait jamais eu de grève en 25 ans d'existence pour à la fois se battre pour nos conditions de travail. Et puis à cette époque, ce magasin avait refusé de signer la charte sur l'étiquette, c'est-à-dire accepter le travail des enfants en Chine pour fabriquer les jouets qu'ils vendaient en France.
Okay.
Donc voilà, j'étais un petit peu... énervé par ça. Ouais. Donc c'était ma première grosse expérience de bagarre avec la grande distribution. Okay. Et après, ma vie professionnelle s'est bien améliorée grâce à deux copains, Jérôme Duparc et Axel Hernandez, qui avaient la volonté de monter un bar et qui m'ont demandé de les rejoindre pour travailler sur le projet. On est en 2003. Mm-hmm. On est un petit peu des islamo-gauchistes, comme on dit aujourd'hui, comme même si aujourd'hui, le terme n'existe pas. Non, ça n'existait pas. On était quoi ? On était des altermondialistes.
Voilà,
c'était
d'accord.
ça. Oui, c'était ce mouvement altermondialiste. Ouais. José Bové, le McDonald's Millau. Oui. C'était ce mouvement-là. Il y avait Attac aussi qui était très fort. Donc on a 25 ans. On gravite un petit peu dans ces milieux. Et on se dit, oui, en fait, mais peut-être qu'au niveau local, on peut aussi faire quelque chose. C'était à l'époque du slogan aussi pensée globale, action locale. On était très, très là-dedans. Et on se disait que on pouvait ouvrir un bar en étant cohérent avec nos idées, on pouvait créer un lieu politique, et on avait fait ce choix de remplacer tous les produits d'un bar classique par des produits bio, par des produits locaux. Donc déjà avec ce soutien, cette volonté de soutenir l'agriculture paysanne et biologique. Pas facile en 2003. Aujourd'hui, on peut faire ça en 15 jours. On a mis une année à trouver les paysans, trouver les producteurs. Je ne sais pas combien il y a de brasseries artisanales aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, mais à l'époque, il y en avait 3 ou 4. Rien n'était référencé. On était encore sur Internet à 56 KO. Donc, on avait le temps d'aller faire un tour en ville pour ouvrir une page Internet. C'était quand même... Ça fait un peu ancien combattant.
C'est pas si vieux, mais c'est un autre monde.
Mais voilà, donc ça a été long de pouvoir faire ce travail-là. Ça a été long aussi de trouver un lieu, parce qu'on ne fait pas confiance à trois chevelus jeunes qui veulent refaire le monde.
Trois intermondialistes.
Et ça a quand même fonctionné. On a ouvert un lieu en mars 2004 à la Guillotière à Lyon, qui s'appelait De l'autre côté du pont, en scope. Donc c'était aussi quelque chose d'important pour nous, de montrer que ce n'est pas l'argent qui dirigeait l'entreprise. Mmh. On était tous associés salariés. Et c'était vraiment pour nous une expérience économique. On imaginait de notre entreprise comme un outil de redistribution. Donc en fait, en gros, là, pour le coup, le modèle économique était simple.
Oui, il y avait un modèle économique.
On vend de la bière, et avec la bière, on peut tout faire.
D'accord.
Et c'est assez rigolo. Ça nous permettait d'avoir un plat du jour le midi. Donc on était aussi dans les premiers à faire des plats végétariens.
Oui.
Ce qui était assez...
Oui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas du tout courant.
Il y avait quelques restos... lyonnais, mais très très peu ou très spécialisé. Et nous, on faisait un plat du jour carné, un plat du jour végétarien, avec plein de paysans, avec des maraîchers. Donc ça, c'était une autre logistique, parce qu'on n'allait pas chez Métro tout acheter. Hein. On avait un produit, un fournisseur, donc ça prenait du temps. Et évidemment que ce qu'on achetait coûtait plus cher que ce que tu peux trouver dans la grande distribution. Je me souviens qu'à l'époque, si j'achetais de l'agneau de Nouvelle-Zélande, et c'est toujours le cas aujourd'hui, chez Métro ou PromoCash, ça nous coûtait 6 euros le kilo. L'agneau du Bugey, de notre paysan, il coûtait le double, voire plus. Donc c'était vraiment la vente de bière qui pouvait combler, en tout cas, ce qu'on pouvait perdre sur l'alimentation. Et ça nous permettait de financer la culture aussi, des concerts, des conférences, des pièces de théâtre, du cinéma... Donc on était vraiment un lieu très 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 engagé et on s'est quand même bien régalé pendant une dizaine d'années. Ensuite ça reste quand même un boulot d'hôtellerie.
Pour avoir fait partie des clients réguliers, on se régalait aussi. Hein.
C'est vrai.
C'était très très bon. Les concerts étaient super. C'est vrai que c'est un lieu alors qui existe toujours d'ailleurs je crois.
Non, il a fermé en avril 2023 après 19 ans. Donc c'était assez triste. Ça a pas tenu. L'après Covid a été difficile. L'ambiance dans le quartier des Guillotières aussi pendant quelques temps n'a pas aidé. Et puis à un moment donné, il faut aussi, les lieux Ouais, il faut qu'ils continuent de bouger, d'expérimenter, de faire des choses. Et on dit que parfois, une entreprise qui ne bouge pas, elle meurt. Donc, c'est aussi le cas des coopératives. Donc, ça a été,
en tout cas, c'est un souvenir. Franchement, triste, pour mais... un ancien client, enfin, c'était, à l'époque, c'était un bar qui était super. Mais
en fait, si ça n'existait pas en France, un lieu comme celui-ci, en coopérative, qui allait aussi loin sur tous ces sujets, et ça a été un succès assez immédiat. Assez donc, on s'est bien marré. On a fait des milliards de choses. Je crois qu'on a dû organiser 300-400 concerts. On était le seul bar lyonnais à payer les artistes. Ça aussi, c'était une bagarre pour nous. On paye bien les paysans. Pourquoi on ne paierait pas les artistes? Et c'est toujours, malheureusement, la mode du chapeau. Les bars... font venir des artistes. Tu auras deux bières et tu seras défrayé ou tu auras un chapeau. C'est leur métier. Donc, on avait fait le choix de leur faire aussi des cachets intermittents du spectacle. On était entrepreneurs, on avait la licence entrepreneur de spectacle et on les déclarait. On faisait vraiment le job. Donc, on était aussi appréciés par les artistes aussi. Lyonnais. Ouais. Et puis, ça a permis aussi qu'eux puissent continuer de commencer à se battre avec les autres lieux. Je dis, on va pas jouer gratuitement. C'est notre travail, en fait. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important, cette équité. Et comme je disais, ça reste un métier difficile. Et au bout de 10 ans, tu es quand même usé de porter des fûts. Tu rencontres pas non plus que des gens qui vont t'inspirer. Tu es au comptoir, parfois, ça reste compliqué. Parce qu'on était aussi un lieu qui était très ouvert à tout le monde. Tu peux avoir un médecin, un avocat, un étudiant, un ouvrier, un SDF. C'est la vie, c'est le quartier. Donc tout le monde était accepté.
Mais c'est vrai qu'au bout de 10 ans, on peut peut-être avoir envie de passer à autre chose aussi.
Oui, alors clairement. Et puis moi j'avais aussi que le bac et quand même je sais très bien qu'en France on a besoin d'avoir un diplôme pour exister et puis même pour moi
même après ça je m'en rends pas forcément compte même après 10 ans justement où t'as un projet
parce qu'en France tu redémarres à zéro sinon on te demande ton CV ou tes diplômes dans des demandes de subvention aujourd'hui pour voir est-ce que l'entrepreneur s'il n'a pas un bac plus 5 est-ce que c'est quand même quelqu'un qui va faire c'est assez bizarre et après j'en avais aussi besoin moi à titre personnel, de réussir quelque chose seul. De l'autre côté du pont, c'est une expérience collective. Et là, je me dis, c'est que je reprends des études, je fais un master en économie sociale et solidaire, tout en continuant de bosser dans mon bar. Donc, 3 jours par mois, j'allais à la fac. Sans méthodologie universitaire, donc c'est compliqué aussi, mais ça fait du bien de remettre la tête dans les bouquins, de réfléchir autrement, de vraiment faire ce pas de côté, et puis d'imaginer une suite possible. Donc, je suis jeune diplômé en 2013, donc à 34 ans.
Et au-delà du papier, est-ce que c'était intéressant pour toi? Au-delà du diplôme, est-ce que ça...
Ça m'a vraiment fait plaisir de creuser, de relire des bouquins sur le mouvement coopératif, sur tout ce qui existe, ce qui a existé, notamment au 19e siècle. Donc, c'est des choses que j'aurais pas faites, en fait. Donc, clairement, ça m'a ouvert de rencontrer aussi dans ce parcours universitaire des mutuelles, des assos, de voir tout ce qui existait dans l'ESS, ça m'a apporté. Et ça m'a vraiment apporté surtout la confiance de réussir quelque chose seul pour pouvoir démarrer autre chose par la suite. Est-ce que je vais y arriver?
Il y avait quand même besoin de valider aussi cette étape-là.
J'étais diplômé, j'étais en fin de course à de l'autre côté du pont, et c'est là où encore une fois, des rencontres. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là dans ma vie professionnelle de rencontrer des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Je rencontre un bailleur social, Est Métropole Habitat, qui était dirigé par Cédric Van Stevendel, qui est devenu maire de Villeurbanne en 2020, et la Fondation Abbé Pierre, qui avait cette volonté avec Marc Curie de développer des projets dans les quartiers populaires, soit pour se développer en tout cas le reste à vivre, le pouvoir d'achat des locataires pour le bailleur, et de développer des projets de lutte contre l'isolement et l'exclusion pour la Fondation Abbé Pierre. Puis moi, j'avais ma petite casquette alimentation. L'idée de Vrac est vraiment venue et sortie un petit peu de la tête de Cédric et de Marco, où ils étaient dans un train pour Bruxelles. Et ils voient un immeuble avec des milliers de paraboles, comme on les connaissait toutes il y a une quinzaine d'années. ils se disent, s'il y avait une seule parabole, ça se coûterait quand même moins cher à tout le monde. Et l'idée, c'était ça, quoi. C'est comment on fait pour vraiment réduire les coûts aux habitants. Donc, on était sur une entrée très, très, très économique. Donc, on crée un petit collectif, on crée un conseil d'administration avec des copains, des gens qui bossent dans les quartiers, qui bossent dans le logement ou dans des assos. On trouve un bon président qui était Jean-Pierre Aldeguer, qui était un ancien d'Habitat Humanisme, qui connaît aussi petit peu vraiment toutes les questions sociales du territoire lyonnais. Encore une fois, je viens de la campagne. Je connais pas les banlieues. J'ai jamais mis les pieds. Et donc l'entrée était très économique. Et moi, tout de suite, je dis je réoriente sur l'alimentation durable, sur ce soutien de la culture paysanne, sur la démocratisation des bons produits. Je veux dire, on sera pas meilleur que Lidl en fait. Donc ça ne sert à rien. On va pas, si c'est pour revendre les mêmes produits de merde, ça n'a aucun intérêt. La plus-value, c'est de leur rendre vraiment une bonne alimentation accessible. Donc là, ça commençait un petit peu à être compliqué en termes de préjugés, mais ça marchera pas vraiment. Donc c'était intéressant de relever ce challenge-là. Et au début du projet, Jean-Pierre Aldeguer me dit, écoute Boris, tu t'enfermes 3 mois dans ton bureau et tu écris le projet, quoi. Tu écris ce que tu veux, ce que tu as en tête, comment tu imagines les choses. Et là, je me suis dit, mais non, moi, je ne sais pas faire ça. Je ne suis pas quelqu'un... suis incapable. Donc, je suis parti 3 mois dans les quartiers. Il fallait que je découvre où j'allais aller. Donc, on s'est orienté sur les 3 quartiers emblématiques de la métropole de Lyon. Le Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin, où on démarrait les premières émeutes urbaines dans les années 90, Ralette Calcane en 95, un quartier très connu. Donc, avec aussi plein de... pas forcément connu pour des bonnes raisons par le grand public, mais alors qu'il y a un tissu associatif des habitants géniaux, et qu'il y a plein de choses qui s'y passent. Les Minguettes à Vénissieux, la marche pour l'égalité en 83, donc les Armats de banlieue, quartier très politique, et la Duchère à Lyon, que tous les Lyonnais connaissent évidemment. Et je suis parti à la rencontre des gens, en fait. Et ma belle surprise, c'est qu'en fait, j'étais hyper vite adopté. Ça s'est très bien passé. Je participe à plein d'ateliers avec les habitants. C'est à cette époque que je me suis mis au café. Je ne buvais pas de café, mais dans le milieu associatif, tu n'as pas le choix.
Des quartiers,
je suis toxico au café. Et c'était rigolo de voir qu'en fait, c'était la même chose que ma campagne. Le même isolement, la précarité économique,
le café,
les discriminations. C'est la même chose. Il n'y a que la taille des tours qui change, quoi. C'est la même pauvreté et puis le même abandon des politiques aussi, les mêmes inégalités d'accès à un travail, d'accès à une bonne école. C'est vraiment pareil, quoi. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt je trouve qu'il y a beaucoup plus de points communs entre un village pauvre en pleine campagne et les quartiers populaires que 2 villages entre eux. Donc il y a vraiment des passerelles à faire entre ces territoires et de ne pas les opposer. Et donc ça démarre comme ça. Donc je fais le tour des quartiers, je crée des petits collectifs d'habitants, j'organise des dégustations pour faire goûter les produits, pour casser vraiment cette peur de l'inconnu, cette peur des produits bio qu'on ne peut pas s'offrir. C'est pas pour nous, c'est pour les riches. Et de casser un petit peu toutes ces barrières et de lancer les premiers groupements d'achat en 2014 dans ces 3 quartiers. Et ça a marché tout de suite.
Et du coup, c'est 3 mois là que tu as passé, on va dire, en immersion dans les quartiers. Le but, c'était quand même de lancer le projet ou c'était vraiment de prendre la température, de voir si l'idée était bonne.
Moi, j'étais sûr que c'était une bonne idée, mais il fallait quand même convaincre les gens. Donc, il y avait vraiment cette volonté d'être accepté, d'être connu et de connaître assez de monde pour pouvoir lancer les premiers groupements d'achat, d'avoir assez de personnes qui me faisaient confiance et de surtout d'identifier les bonnes personnes dans les quartiers. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que à force de rencontrer du monde, on t'oriente, tiens, tu devrais voir telle personne, tu devrais voir telle personne. Et puis, d'un seul coup, tu entends, et je me souviens très bien à la Duchère, le nom de Kira Shikawi qui revenait régulièrement, et qui n'était pas une élue, qui n'était pas une grande responsable associative, c'était une personne dans le quartier qui bossait notamment au lieu échange parents du collège Victor Schulcher et qui connaissait tout le quartier. Et en fait, ça m'a ouvert toutes les portes de rencontrer Kira. Elle me présentait tout le monde et ça a joué en fait pour que les gens aient confiance. Elle a cru au projet et elle l'a expliqué aussi aussi beaucoup aux gens. Donc plus tu en parles, plus les structures adhèrent, plus les gens adhèrent, plus ils en parlent aussi, quoi. Ouais. J'ai pas mis des affiches, des 4x3.
Il fallait aller trouver la bonne personne.
C'est vraiment l'oralité. Et ça, c'était assez génial de toutes ces rencontres.
Mais t'étais assez seul à ce moment-là dans le projet.
Ah, j'étais complètement seul. Il y a un conseil d'administration que je vois de temps en temps, mais je suis complètement tout seul. Ouais. Ça me fait du bien, parce que après cette aventure collective à l'autre côté du pont où on a fini à 9 associés salariés, j'avais besoin d'être seul.
Ouais, d'accord.
Et en même temps, je voyais du monde tout le temps.
Tu voyais du monde tout le temps, voilà. Ouais, donc, mais t'étais dans ce projet, en tout cas.
Oui. Et puis, sans forcément réfléchir au début à la logistique, à toutes les emmerdes que j'aurais eues par la suite, que j'imaginais pas forcément.
On n'y a pas eu forcément.
Non, mais t'es porté par cette envie de cette nouveauté, par. Tu sais que ça a du sens, que c'est cohérent avec ce que tu portes depuis 10 ans. Donc, les difficultés, tu les vois pas forcément pour l'instant. Et ça marche. Et ma stratégie, c'était si j'arrive à vendre de l'huile d'olive dans les quartiers, je peux tout vendre.
Tout peut se faire.
Parce que chacun avait son plan de l'huile d'olive qui venait d'Algérie, de Tunisie, du Maroc.
Ah oui, d'accord.
Et si j'arrivais à convaincre avec l'huile d'olive...
Et
je me souviens d'un premier article dans Rue 89 Lyon à l'époque où Laurent Burlet, journaliste, qui c'était vraiment un des premiers articles sur Vrac, tout début 2015, et qui titrait Boris Tavernier le dealer de Zitzitoun. Zitzitoun qui veut dire huile d'olive en arabe. Et c'était assez rigolo parce que c'était vraiment ça, quoi. Et c'était la porte d'entrée. Et on a commencé comme ça et ça a marché tout de suite. Et chaque mois, des gens revenaient. On a commencé à grossir. Il y a eu de la demande sur d'autres territoires.
Et t'as commencé avec un produit, du coup ?
Non. J'avais déjà, comme j'avais la chance d'avoir été restaurateur, j'avais déjà une trentaine de références. J'avais donc soit les producteurs de l'autre côté du pont, ou alors j'allais dans des magasins bio, je regardais qu'est-ce qu'ils vendaient, je contactais les fournisseurs, les grossistes, les paysans. Donc je me suis débrouillé comme ça pour créer le premier catalogue. Au début, je voulais vraiment m'appuyer sur les besoins des habitants. Mais la première chose qu'ils disaient, c'est toi, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu offres, qu'est-ce que tu nous montres. Donc, il fallait que je constitue un catalogue.
Et après,
on l'a retravaillé ensemble avec les gens. Et ça, donc je suis resté seul, je dirais, une année et demie. Ouais. Ça s'est assez vite développé parce qu'au bout de... une année et demie, on était déjà dans 7 quartiers, on avait déjà 700 adhérents. Donc, ça a vite fonctionné, en fait. Donc là, on a commencé à agrandir l'équipe. On avait un hangar de stockage à Vaux-en-Velin, très artisanal aussi. D'accord. Donc c'était beaucoup de la débrouille. On faisait comme on pouvait, mais ça fonctionnait.
Et le cœur d'activité déjà, le fait d'avoir déjà ces épiceries.
C'était la même chose qu'aujourd'hui.
C'est la même chose, sauf que c'est décuplé, on va dire.
Bien sûr, on allait créer une épicerie éphémère dans un centre social. Donc c'est vraiment quelque chose. Un projet très économique, déjà, pour les habitants, pour les paysans. C'est des nouveaux circuits de distribution pour les paysans. C'est un projet très social. Ça génère vraiment des nouveaux lieux de socialisation. Tu peux récupérer ta commande en 5 minutes, puis en fait, tu restes la journée à papoter avec tes voisins. Et ça, c'est plutôt chouette. Projet aussi très orienté sur les questions environnementales. Nos produits sont issus de la culture biologique, l'absence d'emballage. Projet citoyen. On n'a pas de bénévoles extérieurs qui viennent servir la soupe aux pauvres. C'est tous les adhérents, tous les habitants du quartier sont bénévoles pour eux-mêmes et pour leurs voisins. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui compte. Ils viennent avec leur emballage, ils viennent avec leurs bouteilles. Donc, ils jouent aussi. Enfin, ils sont très présents sur l'opérationnel, mais aussi dans les choix de la structure. Je voulais vraiment quelque chose qui soit le plus démocratique possible. Et si on n'a pas les habitants dans la gouvernance de nos projets, ça a moins de sens. Donc, ça, c'était quelque chose d'aussi important, de les faire monter en compétence sur ces sujets-là.
J'ai du mal à imaginer, en fait, comment tu fais quand tu arrives. Parce que je t'imagine arriver tout seul dans un des 3 quartiers que tu as cités. Comment tu arrives ? Tu es tout seul, tu connais personne. Et finalement, tu as les habitants qui eux-mêmes s'investissent bénévolement pour ouvrir cette épicerie. Et les personnes savent qu'on peut y aller tel jour. Enfin, tu vois, comment tu communiques ? Comment ça fonctionne ?
C'était vraiment beaucoup, beaucoup l'oralité. Et puis le fait d'avoir commencé par rencontrer toutes les assos. d'un territoire, que ces structures soient convaincues du projet. Mmh. On est vraiment, on apportait quelque chose qui n'existait pas dans le quartier, donc il n'y avait déjà pas de concurrence potentielle. C'est vraiment toutes ces structures qui ont communiqué, qui ont parlé à leurs adhérents, qui ont raconté. Et dès qu'il y avait une réunion, une dégustation, il y avait tout de suite beaucoup, beaucoup de monde. Et je prenais les commandes directes, en fait. Donc non, ça a été assez facile quand même.
Parce qu'il y avait beaucoup de relais, en fait.
Ah ouais, il y avait énormément de relais sur tous les territoires. Tout le monde communiquait. Donc j'étais tout seul, mais j'avais une armée de 50 personnes. Et ça, on le fait toujours aujourd'hui, 10 ans plus tard. C'est toujours ce temps passé dans le quartier qui est indispensable pour que ça fonctionne. Okay. Et cette co-construction avec les structures, avec les habitants.
Est-ce qu'il y avait des freins ? Il n'y a pas de concurrence, mais est-ce qu'il y avait des freins quand tu es arrivé ou...
Alors, les freins pouvaient être économiques, notamment par des services des collectivités qui avaient peur. Souvent, dans ces quartiers, il y a peu de commerce. Ouais. Et souvent, ils ont été aidés par la collectivité. Donc, ils avaient peur qu'on fasse concurrence, que le petit 8 à 8 ou le petit spar s'effondre parce qu'il y a vrac. On leur a toujours tout de suite expliqué que c'était pas les mêmes produits, que c'était pas la même fréquence. Donc en fait, on n'a jamais été embêté. Puis on travaillait aussi en bonne articulation. Par exemple, si on allait voir une épicerie à côté de vrac, on n'avait pas forcément proposé les mêmes produits. On fait pas la semoule dans les quartiers parce qu'ils ont tous la semoule qu'il faut. Donc on fait vachement gaffe. Mais le fait de se connaître, en fait, ça limite complètement ça. Aujourd'hui, on est à Lyon, on a un lieu qui s'appelle la Messale, qui est un tiers-lieu dédié à l'alimentation, avec une épicerie et une boucherie à côté. On travaille avec les gens, on discute et tout se passe bien. Se parler, en fait.
C'est parler, juste se parler, vous êtes importé depuis longtemps.
De ne pas arriver comme ça, de ne pas être sur une posture descendante. Et en fait, ça, c'est facile. Donc ça a marché, le projet s'est développé. On a eu la chance d'être assez visible médiatiquement assez vite parce que ça n'existait pas.
Ouais.
Des projets innovants, l'innovation sociale.
Donc là,
on commence à gagner des prix. En 2016, on gagne S'engager pour les quartiers, qui est vraiment beaucoup de projecteurs. On est reçu à l'Assemblée nationale, on reçoit deux prix.
Donc assez rapidement.
Ça a été très vite parce que ça n'existait pas, en fait. Donc on commence à avoir les premiers médias et on a un peu la caution pauvre du bio aussi. Oui. Donc on gagne des prix, on commence à être visible, d'autres territoires sont intéressés. Je me souviens qu'en 2016, je vais présenter Vrac à l'Eurométropole de Strasbourg, et puis là je vois des acteurs du territoire.
Donc c'est en général les territoires qui te demandent de venir présenter Vrac.
Quand j'ai monté Vrac, j'étais très heureux. Tous les mois, j'étais avec mon couteau à fromage, avec mes balances, à jouer à l'épicier dans les quartiers avec les gens, et puis petit à petit, effectivement, le métier a changé, même assez rapidement. Donc en 2016, je suis sollicité par l'Eurométropole de Strasbourg, je présente le projet, et là, je vois que les acteurs sont vraiment intéressés. Puis on dit, on peut pas faire ça chez nous. Je dis, si vous voulez. C'est fait de manière très naturelle. C'est pas du tout un plan stratégique.
En année 3, on aura tant de vrac.
Pas du tout. J'ai aucun plan de carrière, mais encore aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire quand je serai grand. Donc on monte ça à Strasbourg avec un centre social, avec des acteurs du territoire. Et en 2017, on est lauréat de la Fondation La France S'Engage, c'était un ancien programme présidentiel de François Hollande. Cette fondation est vraiment liée, donc te donne des moyens de pouvoir développer ton projet sur d'autres territoires.
C'est l'objectif de la Fondation La France S'Engage, c'est trouver une association qui va pouvoir essaimer.
Chaque année, il y a 15 assos qui sont sélectionnés à peu près qui vont être accompagnés pendant 3 ans avec des moyens financiers, des moyens humains.
En tout cas, la France S'Engage, ça a quand même été
accélérateur.
Un propulseur.
On développe Vrac à Bordeaux, à Paris, à Toulouse. On commence à grossir un petit peu.
C'est-à-dire que ton rôle, à partir de ce moment-là, quand même, il a quand même beaucoup changé.
Je deviens développeur. Donc, il y a une équipe à Lyon. Il commence à avoir des... Donc, il y a une embauche à Strasbourg, à Bordeaux, dans chaque ville. Donc, moi, je développe. Je fais les quatre coins de France. En 2017, c'est aussi... ça fait un peu plus de 3 ans que je suis sur le projet Vrac, que je fréquente des centaines d'adhérents et surtout d'adhérentes, que j'entends beaucoup ces femmes dans les quartiers qui ont plein de choses à dire, qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas vus, pas écoutés, qui sont invisibilisés. Et à la suite d'un concours de cuisine que j'organise à Vaux-en-Velin en 2016, c'était le premier concours de cuisine, j'ai dit, mais il faut continuer, il faut aller plus loin que ça. Et j'ai l'idée d'un livre Donc je me souviens, je me suis dans mon hangar à Vaux-en-Velin à attendre une commande de farine qui n'est jamais arrivée. D'accord. Et tiens, on va faire un livre de recettes. Mais bon, un livre de recettes, c'est trop facile, il y en a plein. Il faut trouver sa singularité. Et j'ai eu l'idée de convier Alexis Génie, écrivain, ouais. Prix Goncourt, 2011, ouais. pour L'art français de la guerre, qui écrivait dans mon bar à Lyon, que j'ai rencontré comme ça.
Ah, c'est comme ça que tu le connais, d'accord.
Et c'était le seul écrivain que je connaissais. Okay. Je lui ai dit, écoute Alexis, j'ai une idée de faire un livre de recettes dans les banlieues. Et je veux que tu écrives l'histoire des femmes qu'on va rencontrer. Ouais. Il dit, mais moi, je suis romancier, je ne sais pas faire. Oui, mais tu n'as pas le choix, je connais que toi. Donc, j'embauche Emmanuel Prost, un dessinateur aussi, illustrateur, dessinateur de BD, un photographe, Denis Sparce, un graphiste, un cuisinier.
D'accord, et, oui, c'est vraiment un projet collectif.
Oui, c'est assez rigolo. Donc on est quelques-uns et puis je rencontre une quinzaine de femmes avec qui je travaille déjà dans les quartiers. D'accord. Et on s'invite à manger chez elles.
Okay. Donc c'est très et bien. Vous invitez avec toute la petite bande.
Avec toute la petite bande. Alors on arrivait souvent Alexis, Emmanuel, le dessinateur et moi, au début.
D'accord.
Alexis avec son petit carnet, okay. Emmanuel avec son dessin, peut poser dans un coin. Et moi je discutais avec les gens, je posais plus les questions parce que je les connaissais, donc il y avait la confiance. Ouais. L'enjeu c'était quand même de s'inviter chez elles. On était 5 ou 6 mecs.
Et qu'elles nous fassent le plat.
Et qu'elles nous fassent leur plat.
Son meilleur plat.
Leur plat. D'accord. Et c'est vraiment à travers cette intimité de la cuisine qu'elles nous racontaient leur vie, leur immigration. Ouais. Donc on a des histoires très très dures. Ouais. Sundes qui vient d'Irak, quand elle te parle de ses conditions de vie en tant que copte, kurde et irakienne, c'est violent. C'est quand on parle de Lada au Cambodge, dont le mari a été assassiné à quelques mètres d'elle par les Khmers rouges. Ouais. C'est des histoires très 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 très, très dures. Mmh. Et voilà, c'est montrer aussi que ces femmes, déjà, c'est des combattantes comme on n'imagine même pas, mais elles sont pas venues manger le pain des Français, quoi. Elles sont venues juste vivre, survivre même.
Ouais, survivre. Ouais.
Et qu'on avait beaucoup à apprendre d'elles aussi. Mmh. Donc ce livre a très bien marché et ça nous a redonné aussi un coup de visibilité. J'avais en tête très vite qu'un projet à la mode peut vite être remplacé par un autre projet à la mode.
Ouais,
donc il faut toujours créer, il faut toujours inventer pour continuer d'exister. Et ce livre-là nous a donné une bonne tribune en termes de presse nationale. Ouais. Il a vachement fonctionné. Je lui dois aussi beaucoup de voyages à ce bouquin. Ouais. Okay. Parce qu'on s'est retrouvés invités, on a gagné des prix, on s'est retrouvés à présenter ce livre en Égypte, Liban, aux États-Unis.
Ah, je savais pas que c'était ici.
C'est complètement dingue.
C'est
complètement dingue. Oui, donc ça a bien pourri mon empreinte carbone, ce livre aussi.
Ah, oui, bon, c'était pour la bonne cause.
Et c'est quelque chose que j'ai aimé faire. On a quand même besoin de petits pas de côté, de petits projets transversaux qui te portent aussi.
Qui donnent de l'air aussi. Et en même temps, il y avait ce lien avec Vrac. C'était aussi quelque part de la communication aussi.
Bien sûr, mais complètement. Ouais. Tout est lié. Derrière ça, beaucoup de presse.
Ouais.
C'était une corde de plus. Le fait de développer le projet, d'aller aux quatre coins de France, tu n'es plus dans les quartiers. Tu n'es plus avec les habitants et c'est hyper dur. C'est dur, c'est un peu comme quand tu vas chez ta grand-mère et que tu te fais engueuler parce que tu vas pas souvent. Quand je retournais dans les quartiers, on te voit plus. Mais quand il y a eu un lien fort qui a été créé, vraiment d'amitié, tu fais partie de la famille de certains adhérents. Ouais. Donc c'est dur de changer de métier. Ouais. Alors l'équipe en place était géniale. Je me souviens de Clara, Clarisse, Joachim qui sont arrivés très tôt et qui ont fait un boulot extraordinaire, mais moi ça me manquait, donc de pouvoir un projet comme ça, je retourne dans les quartiers, revois les gens et ça me nourrit. Parce que ça continuait d'évoluer.
Et c'était pas possible de faire d'avoir les deux, d'avoir à la fois une casquette de développeur.
C'est difficile. C'est vraiment difficile parce que c'est très chronophage d'aller partout en France. Tu peux plus aller faire des distribs comme ça. Enfin, c'est un autre métier en fait. Quoi. Ouais. Donc, j'allais faire des petites visites, faire un petit coucou, mais c'était un peu.
Oui, tu peux pas faire comme tu disais avant.
C'était pas suffisant. Terrain, Donc voilà, le projet continue d'avancer, de grossir. J'ai toujours ce premier bouquin me donne envie d'en faire un deuxième. Donc on continue à bosser avec Alexis Génie et avec Frédéric Danhé, qui est un journaliste, et on a fait donc sur cette question d'aide alimentaire, on visite une banque alimentaire. documentaire, mmh. on raconte ce qu'on y voit, et on fait un tour de France, j'adore les tours de France, pour aller visiter plein de projets, des alternatives, une épicerie à Antony portée par Secours Catholique, la Cagette à Montpellier, un magasin coopératif, des habitants dans un petit village dans le sud-ouest à Soumoulou qui jardinent pour nourrir la population, plein de projets pour montrer qu'il y a d'autres possibles.
Et ça, c'était plein de projets, quoi, qu'il y avait, on va dire, un lien avec VRAC sur le...
Pas forcément, c'était des partenaires, des amis, d'autres assos, c'était pas du tout VRAC qui portait ces projets-là, mais montrer qu'il y avait vraiment plein de choses qui existaient, plein d'autres alternatives que ce qu'on connaissait aujourd'hui. Et donc on a sorti ce livre, enfin on a travaillé sur ce livre qui s'appelle Ensemble pour mieux se nourrir, qui est sorti chez Actes Sud, mais il est sorti que en 2021, parce que comme vous le savez, en 2020, ça a été quand même compliqué.
En même temps, on avait le temps de lire.
On avait le temps de lire, mais on n'avait plus le temps d'écrire. Enfin, on n'avait pas le temps. En tout cas, on ne pouvait plus voyager. Puis, il a surtout fallu réécrire le livre en partie, parce qu'on ne pouvait pas ne pas parler du Covid dans le bouquin et dans tout ce que ça générait. Donc, le livre est sorti en 2021. Pareil, ça a bien fonctionné. J'avais fait un autre livre pendant le confinement.
D'accord.
Qui s'appelle Reste d'enfance.
Et c'est toi qui l'as écrit, ça, ou...
Non, mais moi, je suis un feignant.
Tu fais toujours bosser les autres.
Dans Reste d'enfance, j'ai écrit un texte, quand même. C'est mon premier texte.
La préface, quand même.
Non, j'ai écrit mon texte. Reste d'enfance, j'ai demandé à 40 journalistes, cuisiniers, d'écrire le plat de leur enfance.
D'accord.
Et déjà, je trouvais ça rigolo de pouvoir faire ça. Mm-hmm. Et tu avais des super belles histoires, des recettes que tu pouvais pas refaire, parce que souvent, c'était avec les restes de la veille. C'était assez marrant.
D'accord.
Mais ça me permettait aussi d'avoir un noyau de 40 personnes, 40 journalistes qui allaient aussi pouvoir parler du livre qui allait sortir en 2021, Ensemble pour mieux se nourrir. Donc voilà, je m'amuse. C'est un outil que j'aime bien, le bouquin, à la fois à construire et puis à défendre après en termes de promotion. Et 2021, il y a le plan de relance de l'État aussi, donc il y a encore beaucoup... Donc moi, j'en ai un peu marre du développement, mais je suis encore un peu dedans, mais le plan de relance, on a des moyens pour la première fois, on récupère 1 300 000 euros, ce qui est quand même énorme à l'échelle de VRAC, et on vend à l'État qu'on va doubler notre action. Et en fait, on a triplé notre action, on est passé de 6 assos à 18.
Okay.
Donc là, ça a développé à tout va, on était partout, et moi, je crois que j'ai dû en monter 14 ou 15 d'assos, et j'avoue avoir une petite lassitude, donc j'ai refilé le bébé à mon collègue Joachim sur le développement, et je me suis attaché à la recherche de fonds, au plaidoyer politique et à la partie médiatique. Donc c'était vraiment être partout, dans tous les assos, les ONG, faire des partenariats, du réseau pour continuer de travailler le côté politique. Donc on continue notre action de terrain qui répond à l'urgence, on la massifie, on continue de la développer et on se projette plus loin, on commence à travailler sur ces questions de sécurité sociale et de l'alimentation.
C'est aussi porter la vision aussi.
Cette volonté de changement de société... Et puis on fait mille autres choses aussi dans VRAC, et c'est ça qui est quand même assez génial. Je vous parlais furtivement de la Mesa tout à l'heure, c'est un projet qu'on avait en tête depuis des années, d'avoir notre lieu aussi à nous, très influencé par les centres alimentaires communautaires qu'on trouve au Canada.
D'accord.
Mais donc ce lieu, c'est une épicerie-restaurant.
D'accord.
100% bio et le tout à triple tarification. Donc si tu viens manger à la Mesa, dans le 8e arrondissement de Lyon, dans le quartier Paul Santi, États-Unis, tu peux manger pour 12 euros l'entrée plat dessert quand tu as les moyens.
D'accord.
Si tu habites le quartier, tu payes 8 euros,
donc
moins cher que le menu kebab, et 4 euros pour les plus précaires.
Ah, d'accord.
Donc on est quand même là sur des tarifs hyper intéressants qui permettent à tout le monde de venir manger. On avait basé à peu près sur 300 adhérents la première année en 2023, on en a eu 850. Donc ça marche à fond, bien soutenu aussi par le territoire, par la collectivité, et c'est surtout ça qui peut nous aider à changer aussi, c'est ce travail en réseau avec le territoire. Quoi.
La Mesa, c'est un restaurant, du coup ?
C'est un restaurant à épicerie. On dit ça tiers-lieu. Il y a l'alimentation, parce qu'il y a aussi de la cuisine collective pour les habitants. Il y a plein d'animations. Il y a aussi d'autres assos qui viennent occuper le lieu pour apporter d'autres services. Il y a une permanence numérique, par exemple. Il y a des animations alimentation santé, en partenariat avec les ateliers Santé-Ville. On essaye de bosser avec tout le monde. Et c'est, voilà, c'est super d'avoir son lieu. Ça coûte beaucoup plus cher que de ne pas en avoir. Donc, il faut encore chercher des moyens financiers tout le temps.
Et c'est un vrai tiers-lieu, pour le coup, où il se passe plein de choses.
Ah oui, il se passe plein de choses tout le temps. Et c'est assez génial. Mais... voilà, on a plein de projets à Bordeaux. Ils ont fabriqué des vélos cargo qui se transforment en cuisine de rue, qui va cuisiner directement en bas des tours, au pied des immeubles. Donc l'allée vert est hyper important. On a aussi on lance beaucoup d'expérimentations de caisses alimentaires, donc de projets inspirés de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc on essaye de toujours... d'innover, même si j'aime pas ce mot, parce que c'est quelque chose qui est hyper qu'on nous demande tout le temps, et on ne paye jamais le fonctionnement. Ce qu'on fait déjà n'est jamais suffisant. Il faut que chaque année on trouve un nouveau projet. Donc c'est ça aussi qui te pousse parfois à être très créatif, parce que t'as pas le choix en fait, quoi. Et ça, c'est assez difficile. On aimerait bien avoir des financements pluriannuels,
juste pour plus simple.
Je crois que mon collègue de Vraclion remplit 60 demandes de subventions par an.
Ah ouais, d'accord.
Donc, c'est hyper chronophage. Ouais. Quand tu fais ça, t'es pas sur le terrain. Non. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un boulot qui est plus politique. J'ai un peu l'impression d'être homme sandwich.
Ouais, plus en communication aussi.
De devoir aller répéter la même chose, d'essayer d'aller convaincre, de construire des alliances. Donc c'est hyper intéressant. Mais quand même, les quartiers, ça me manque aussi. Je sais que je suis à la bonne place pour la structure.
Parce que
aujourd'hui, on est une vingtaine d'associations. On est dans 106 QPV. On est 80 salariés. Mmh. Donc en 10 ans, c'est pas rien. Quand
c'est
même de d'être arrivé à ça. Donc il y a de quoi faire, mais c'est avec le terrain.
Toi, personnellement, c'est quoi ton moteur? Parce que quand tu veux parler de tous ces projets, c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on voit le développement. Bien sûr, tu n'es pas tout seul chez Vrac, mais.
Non, plus heureusement.
Vous êtes pour moi maintenant, mais je dirais quand même à titre personnel, tu vois, les livres, en tout cas tous les projets que tu as menés à côté. C'est quoi ton moteur qui te fait avancer comme ça?
C'est vraiment. En fait, je m'ennuie vite.
Ok.
La quotidienneté peut vite me fatiguer, donc j'ai besoin d'avoir des choses qui vont m'animer, et c'est surtout les rencontres en fait. J'arrive facilement à avoir des idées, elles sont pas toujours bonnes. J'ai ma petite liste, mon petit carnet d'idées pour plus tard, pour Vrac, que je mets pas en place forcément. Il y a des idées de génie le soir ou la nuit qui me viennent en tête, et que quand tu les relis le lendemain, tu dis c'était pas si génial que ça. Mais c'est surtout les rencontres. J'ai travaillé avec un photographe qui s'appelle Bertrand Gaudière, un photographe lyonnais du collectif Item. On l'avait fait travailler juste pour avoir des belles photos de ce qu'on fait. Et puis on se rencontre, on discute, on papote. On s'était rencontrés à l'époque de l'autre côté du pont aussi. Et puis là, on va se faire un petit tour des paysans, des vracs, et on va faire un livre photo qui sortira en à l'automne 2025. Je peux rencontrer quelqu'un et puis t'as une bonne idée, une expo, on n'a qu'à faire ça. Enfin, c'est vraiment la rencontre et l'envie de faire quelque chose.
Et le projet aussi, quoi, de faire des
projets rencontres, mais c'est vraiment l'envie de faire quelque chose avec quelqu'un qui va être mon moteur. Et puis la peur de m'ennuyer.
A priori, tu t'ennuies pas. Si j'ai bien compris, depuis peut-être 20 ans, parce qu'avec deux
autres. Oui, 20 ans maintenant.
Tu n'es pas ennuyé non plus.
Non, c'est pas ennuyé. Puis il y a encore plein de choses à faire.
Et tu reviens souvent sur ce côté aussi. Finalement, ça me manque un peu quand même ce côté peut-être terrain que tu avais au départ. Est-ce qu'il y a une solution par rapport à ça aujourd'hui, ou est-ce que de toute façon tu es appelé à faire d'autres choses, être plus dans le développement?
En soi, tu peux choisir ce que tu as envie de faire concrètement. Si je fais le parallèle avec Diane Dupré-Latour, des petites cantines, qui est aussi un beau projet lyonnais, elle a réussi et elle a tenu. Pareil, elle a monté la première petite cantine où elle était très active sur l'opérationnel, et puis petit à petit, un parcours fortement identique au mien, parce qu'en plus on a grandi en même temps depuis 10 ans ces deux projets-là. Elle a réussi pendant un an à retourner dans une petite cantine, à dire je m'occupe plus de la tête de réseau, moi j'ai besoin de ça. Moi j'y arrive pas aujourd'hui parce qu'il y a trop de demandes un peu partout, donc c'est difficile. Donc j'ai la chance de ne pas être loin de la Mesa, donc j'y vais régulièrement en tout cas pour voir les gens, pour me nourrir aussi. Mais c'est frustrant, mais parfois t'as pas le choix.
C'est passionnant, non? Quand tu expliques ce que tu fais, je dis ce que t'as fait au début d'être passionnant aussi quand t'as lancé le projet.
Mais là, ce qui est dingue,
c'est que tu fais aujourd'hui reste passionnant aussi.
Oui, puis est-ce que tu te retrouves en plus dans des lieux improbables. alors j'ai longtemps travaillé ce complexe d'infériorité ou ce syndrome de l'imposteur, ouais. À te retrouver dans des lieux, tu dis mais qu'est-ce que tu fais là? J'essaye toujours.
Qu'est-ce que tu fais en Égypte? Peut-être en train de parler d'un bouquin.
Ouais, ça ou. Enfin, ou à la maison de la radio, enfin, la première fois que tu es à la maison de la radio, enfin, c'est dingue, quoi, c'est le lieu, la maison ronde, enfin, pour moi, c'est un truc qui compte, quoi. Et je veux pas être blasé de tout ça, donc je veux toujours que ça soit extraordinaire, mais vraiment, c'est de pas tomber dans la banalité ou la normalité quand je vais dans un ministère, que ouais, c'est pas rien, quoi, de pas être blasé de tout ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez fou où ça peut t'amener, les rencontres, de passer du temps avec des ministres, des anciens présidents de la République. D'où je viens, c'est quand même assez fou.
Tu as dit que tu viens du Pas-de-Calais ou pas
mais bien sûr, avec ces gens-là. J'ai pu faire il n'y a pas très longtemps un entretien assez long avec François Hollande. Évidemment que je lui dis d'où je viens. C'est important de te savoir de où tu parles quand même.
Et puis je dis ça en plaisantant, d'autant plus quelqu'un comme François Hollande qui était à Tulle, qui était en Corrèze.
Ouais, mais voilà,
la réalité. Il a toujours cherché aussi ces racines.
Bah, on parle beaucoup des villes. 75% de la pauvreté se concentre en ville, mais il y en a 25% dans la ruralité. Et on n'en parle pas ou beaucoup moins. Donc, je suis plutôt fier de où je viens, de où j'ai grandi. Et après, c'est pas... c'est quand même assez singulier comme parcours.
Ouais, c'est singulier, c'est clair.
Et puis j'espère que c'est pas terminé, qu'il y a encore mille choses.
Ça va continuer, en tout cas.
Je fais un petit tour sur Info-Retraite, j'en ai encore pour une vingtaine d'années.
Donc j'ai encore plein de projets,
donc il y a encore plein de choses qui vont... des bouquins ou autre chose, mais c'est vrai que le livre, j'aime bien ça. Alors, on va faire là, on a des vidéos qui vont arriver, il y a plein de projets qui vont naître encore de rencontres.
Et puis, le développement est loin d'être terminé, parce que tu disais tout à l'heure, le nombre de quartiers qui restent potentiellement...
Oui, après, c'est toujours cette question, quand est-ce que tu t'arrêtes, en fait, c'est quoi le point critique? Là, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, avec VRAC, on atteint un plafond de verre. On est connu, mais pas assez. On est visible, mais pas assez. On a un peu de sous, mais pas assez. Et il faut réussir à péter ça pour vraiment être installé dans ce paysage. On a prouvé que quand on nous donne les moyens, on fait le job. Quand je parlais du plan de relance tout à l'heure, on avait eu les meilleures notes sur les dossiers, sur les projets. On est quand même. Moi, j'en ai marre d'être une alternative. Honnêtement, j'en ai marre que depuis des années, et c'était déjà le cas de l'autre côté du pont, c'est génial comme alternative. Ouais. Bah non, en fait, on veut être la norme parce que on voit qu'on a raison. C'est chiant. Ouais. Et j'ai quand même ce sentiment qu'on est souvent mis sous perfusion pour exister, pour pouvoir dire qu'il y a des alternatives. Et on aimerait bien aller plus loin et transformer vraiment ce modèle qui est un tueur en série, quoi.
Oui, d'accord. Donc l'idée, ce sera vraiment de développer encore, ça peut encore se développer.
Oui, je pense qu'il faut. Là, on travaille sur le. On aura peut-être notre premier vrac en Outre-mer. En discussion fortement avancée avec l'île de la Réunion. Et puis encore sur notre territoire. Il y a plein d'endroits où on n'est pas forcément. On est aussi dans la ruralité, dans la Drôme. Pour expérimenter aussi ce projet-là. Donc on ne sait pas où on sera de demain, mais. En tout cas, plus on aura de soutien, plus on pourra continuer de développer notre action et je pense faire des choses bien. Le moteur, c'est aussi le retour des personnes, des adhérents. On a cette chance-là chez VRAC. Aujourd'hui, même si je fais beaucoup de plaidoyer et que je vois moins les habitants, je sais que notre action, elle agit directement sur 20, 25 000 personnes. Quand tu fais du plaidoyer pour une ONG environnementale, par exemple, tu n'as pas ce public-là.
Tu
n'as que des défaites, parce que des mini-victoires, parce que les lobbies sont tellement forts, il faut tellement se battre. C'est dur, quoi. C'est vraiment dur.
Les résultats sont peut-être durs à voir aussi.
On voit tout de suite quand même. Heureusement qu'il y a ça. Sinon, effectivement, c'est trop dur, quoi. Tu te dis, mais à quoi bon? Je me le dis, à quoi bon?
Et là, tu vois vraiment concrètement à qui t'apportes de l'aide. 25 000 personnes, mais dont une certaine tu connais directement.
Oui, mais ça, c'est clair que ça, heureusement qu'il y a ça, parce que tu peux vite tomber dans la déprime. S'il y a autant de burn-out aujourd'hui, c'est pas pour rien non plus. Et plein de fois, tu te dis, mais à quoi bon? En fait, c'est rien ce qu'on fait. Ouais. Mais à chaque fois, la raison prend le dessus. Et puis, c'est surtout, si on faisait rien, ce serait pire.
Ce serait pire.
Et je veux aussi pouvoir regarder mes gosses dans les yeux, qui me disent déjà, mais de toute façon, c'est de votre faute si l'état de la planète est comme ça. Je dis, ah non, c'est la faute de papy et mamie. Nous, on essaye de réparer comme on peut, mais c'est la génération d'avant qui... Donc voilà, on essaye, même si j'aime pas du tout ce côté chacun fait sa part, parce que chacun fait sa part n'est pas suffisant.
Ouais. Aujourd'hui,
il faut une mobilisation collective, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, il faut qu'on arrive à se connaître, que ce soit avec les collectivités, les entreprises, les assos, les citoyens. Voilà, si on veut vraiment changer les choses, on n'a pas d'autre choix que de se fédérer quand même.
Ouais, puis pas se laisser décourager comme tu dis.
Il y a des phases où on n'a pas le choix.
Ça fait penser à ce que tu disais au départ sur l'autre côté du pont, le bar que vous avez monté, où tu dis que au départ vous étiez vraiment l'alternative. Alors qu'aujourd'hui, quand tu regardes, à l'époque c'était un peu incroyable quelque part ce lieu. Aujourd'hui, si on le remontait au riz, il serait plus normal quelque part dans le paysage.
Oui.
Ça veut dire que l'alternative, quand même, parce que vous avez porté ça. C'est devenu quelque chose de plus naturel, plus normal.
Certes, mais on vend encore beaucoup plus de bières industrielles que de bières artisanales dans les bars en France.
La partie n'est pas gagnée.
Mais c'est sûr
que ça a beaucoup avancé quand même.
Ah, si on fait une photo de Lyon il y a 20 ans et Lyon aujourd'hui, en termes de lieux de ce type-là, c'est sûr que ça a vachement évolué. Tant mieux.
C'est ça que je trouve hyper encourageant quand même dans tout ça. C'est-à-dire que le projet que vous menez, on dit en gros, on est tout seul, on vous prend pour trop chevelu, tu vois ce que je veux dire. Et puis le fait qu'on se dise aujourd'hui, avec le regard extérieur, on dit bon, finalement avec le recul, c'est un lieu très innovant, très alternatif, mais aujourd'hui il y a de plus en plus de lieux comme ça. Et avec Vrac, on peut peut-être imaginer la même chose dans.
Mais bien sûr, ça bouge, puis il y a des milliards de choses qui se passent sur le territoire, et c'est ça qui donne de l'espoir. Le plus difficile, c'est de réussir à être patient dans un monde d'urgence. On a une urgence sociale, on a une urgence environnementale, mais les sujets sont quand même longs à bouger. Nous, on parlait d'alimentation durable il y a 20 ans.
Ouais.
C'était compliqué, quoi. Ouais. Donc, mais on se rend compte que petit à petit, ça a cheminé. Mais 20 ans.
Il faut du temps, il faut être patient.
Et on est loin du compte. Ouais. Donc voilà, c'est de réussir à avancer, à répondre à l'urgence, à la problématique quotidienne, tout en essayant d'avoir une vision plus lointaine de changement de société.
Ouais. Alors j'ai une dernière question à te poser. Par rapport au sens au travail, parce qu'on pourrait se dire, c'est évident quand on entend tout ce que tu nous racontes, on pourrait se dire, quelqu'un comme Boris, depuis le début de sa vie professionnelle, le sens est évident, de l'autre côté du pont, projet alternatif, Vrac, etc. Même dans tes projets littéraires à côté, on pourrait dire, le sens est évident. Est-ce que c'est si évident que ça, finalement, quand on est à ta place, de se dire, évidemment qu'il y a du sens dans mon travail, ou c'est pas si simple que ça?
Non, oui, je suis bien conscient que je suis assez privilégié sur cette question de sens dans le travail. Après, la question, c'est presque l'inverse, mais dans ta vie perso.
Oui, d'accord.
Évidemment qu'on ne bosse pas 35 heures, je ne vais pas parler à la place de mes collègues, mais je pense que c'est un sujet qu'on a pu évoquer avec pas mal de mes collègues. En fait, t'en fais moins dans ta vie perso, parce que tu as le sentiment d'en faire largement assez.
Okay.
Donc tu vas être moins engagé à être bénévole sur des projets qui pourraient te tenir à cœur, que ce soit sur des questions sociales ou environnementales. Tu dis, c'est bon, j'en fais.
J'ai déjà donné, hein.
Alors qu'en même temps, tout ce que je fais dans ma vie professionnelle, je suis quand même rémunéré. Alors, on va pas développer, ça pourrait être un podcast entier sur le salaire dans les associations, mais il y a de quoi faire là-dessus aussi. Ça biaise quand même l'engagement, tu es quand même rémunéré. Et c'est vraiment quelque chose qui me questionne. Je me dis, je donne beaucoup.
Ouais.
Et puis, tu es déjà bénévole dans ton propre travail salarié. Au final, je donne pas pour autre chose. Donc, c'est plus sur ce côté vie perso qui me questionne un petit peu plus. Mais je vois pas trop le temps si je veux quand même un peu m'occuper de ma famille aussi.
Ouais, ça, c'est qu'il n'y a pas que la vie pro.
Non.
Ouais. Et c'est vrai que dans l'équilibre de vie, j'imagine que c'est une question qui se pose aussi quand on a beaucoup de projets comme les tiens. Ça va pas toujours être simple de trouver cet équilibre justement entre les projets, la vie familiale.
Oui, ça c'est sûr que c'est pas toujours facile. Je me suis toujours efforcé de m'occuper au mieux de mes enfants.
Ouais.
La garde alternée a beaucoup aidé, on va pas, se mentir que être séparé peut avoir des avantages. Et les semaines où maintenant elles ont bien grandi, mais en tout cas les semaines où je les avais, j'étais à la sortie de l'école, quoi.
Ouais,
donc quitte à faire bouger un peu tes horaires de travail, à bosser un peu le soir. De toute façon, quand tu es sur des projets comme ça, tu débranches jamais le cerveau, en fait. C'est 7 jours sur 7, tout le temps. Tu peux pas, même les vacances, tu prends des vacances, je prends des vacances, mais t'as toujours un truc en tête, t'as toujours une charge mentale qui est présente. J'ai plus la charge mentale de... de payer les factures des paysans, de payer les salaires, ouais, de trouver le fric pour l'assaut, le fonctionnement, qui est quand même une charge très lourde. Les salariés de VRAC aujourd'hui, c'est un gros boulot. Tu dois, t'es vraiment un mouton à cinq pattes de devoir chercher du fric, connaître le monde paysan, gérer le politique, animer les groupements d'achat. C'est un gros gros taf. Ouais. Mais j'ai, avec ma collègue Lorana, notamment à la tête de réseau, on a cette charge mentale des souffrances qu'on peut générer.
Ah oui.
Chez les autres salariés, pas qu'on soit maltraitant, mais comme au début du projet, souvent, bah, t'es seul. Ouais. Et que, en fait, il faut vite être deux ou trois pour, parce que les projets sont quand même gros. Tu sais que tu génères des difficultés chez les salariés sur les territoires, tu sais que tu génères de la souffrance. Ouais. Et c'est ça qui est difficile. Tu dis, j'ai créé quelque chose qui, sur le papier, est plutôt beau et vertueux, mais qui génère quand même de la souffrance. Donc c'est il faut donc trouver encore plus de moyens pour que le réseau vive mieux aussi, que leur charge de travail baisse. Parce que là, on est à 80 personnes qui sont hyper investies, et ça tiendrait pas non plus s'ils n'étaient pas à ce point-là. Donc ça questionne. Ouais. C'est pas cet engagement doit aussi quand même être récompensé et financé aussi à la hauteur de ce qu'il est, quoi.
Oui, et que ça ne déteigne pas trop sur leur vie aussi personnelle.
C'est quasiment impossible, en fait, qu'il y ait toujours une porosité quand tu entre l'entrepreneur et la vie privée. C'est hyper difficile de segmenter.
De segmenter, hein. Les choses ne sont pas cloisonnées.
Non.
Merci beaucoup, Boris, en tout cas, pour tout ce que tu nous as raconté. On est parti en Égypte, on est parti un peu partout là, pendant cette interview. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'invite à nouveau les personnes qui nous écoutent, si elles le souhaitent, et notamment pour en savoir plus sur VRAC, à écouter l'épisode de la semaine dernière. C'est un épisode qui est relativement court, mais qui présente vraiment l'association VRAC et ses actions. Merci beaucoup. À bientôt, Boris.
À bientôt.
C'est terminé pour cet épisode. Merci à Boris Tavernier d'avoir été mon invité. Je mets dans les commentaires de l'épisode le lien vers l'association VRAC si vous voulez en savoir plus, si vous voulez les soutenir, si vous voulez les aider. Et puis si vous voulez également soutenir le podcast de Nouvelle Voix, eh bien vous pouvez faire deux actions très simples. Soit aller sur Spotify pour noter ce podcast-là, le maximum bien sûr, soit le noter sur Apple Podcast. Et sur Apple Podcast, vous pouvez également mettre un commentaire, ce qui m'aide encore plus. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.